Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h, très bon réveil à tous.
C'est faux de dire qu'on est à la hauteur des enjeux. Le compte n'y est pas du tout. L'essentiel, c'est comment on peut améliorer les actions et l'ambition de cette loi.
Le projet de loi climat ne respecte pas les objectifs, déplore le député Frondeur Mathieu Orphelin. Le texte Paris d'Emmanuel Macron sera présenté en Conseil des ministres ce matin. Dans ce journal, le deuxième procès en destitution de Donald Trump est bien légal. Il s'est ouvert hier devant le Sénat. Autre procès aujourd'hui, celui de Marine Le Pen, accusée d'avoir diffusé sur Internet des photos d'exactions commises par Daesh. Et puis pour la deuxième année consécutive, le coronavirus vient gâcher les festivités du Nouvel An chinois. Reportage de notre correspondant à Pékin à la fin de ce journal.
À suivre, la page des sports et puis mon invité inattendu qui nous plonge ce matin au cœur des grands procès, dans l'intimité des avocats pénalistes. Et c'est une collègue d'Europe 1 qui me rejoint dans un quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le second procès en destitution de Donald Trump s'est donc ouvert hier devant le Sénat à Washington. L'ancien président est accusé d'incitation à l'insurrection après l'attaque contre le Capitole le 6 janvier dernier. D'ailleurs, l'audience a débuté par la diffusion d'une vidéo choc qui retrace cette journée. Et après cela, Alexis Guilleux, les débats se sont concentrés sur la légalité de ce procès.
Oui, et juger un ancien président est bien conforme à la Constitution, c'est ce qui ressort du vote d'hier soir, 56 contre 44. 6 sénateurs républicains ont rejoint les démocrates après plusieurs heures de débat. Le président est responsable de ses actes jusqu'au dernier jour de son mandat, assure l'accusation démocrate. Sinon, c'est une invitation à ce qu'il s'accroche au bureau ovale et bloque la transition pacifique du pouvoir. Les avocats de Donald Trump ont de leur côté dénoncé un procès politique.
Ce procès est une tentative d'un groupe politique partisan cherchant à éliminer Donald Trump de la scène politique américaine et à priver de leur droit de vote plus de 74 millions d'électeurs américains.
Donald Trump est lui resté en Floride, frustré et mécontent de la performance de ses avocats, d'après la presse américaine, à la limite de crier sur ceux qui l'entouraient. Le procès reprend tout à l'heure à midi et les discussions porteront sur la responsabilité de l'ancien président. A-t-il incité à l'insurrection ? Si ces faits ne sont pas suffisants pour destituer, alors rien ne l'est, a conclu le procureur démocrate après la diffusion des images des violences du 6 janvier.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
En France, c'est un pari politique qui va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres.
Celui d'Emmanuel Macron qui voudrait verdir son bilan à un an de la présidentielle. C'est le projet de loi climat, issu des consultations et débats de la Convention citoyenne qui sera débattu ce matin. Et le texte divise au sein de l'Assemblée. Jean-Rémy Baudeau.
Fin des passoires thermiques en 2028, délit d'écocide, interdiction de la publicité pour les énergies fossiles. Le projet de loi climat reflète près de la moitié des 149 propositions de la Convention citoyenne. Et pour le député LREM Roland Lescure, le texte répond surtout aux promesses d'Emmanuel Macron.
On a créé la Convention citoyenne pour le climat. Le gouvernement a produit un projet de loi qui, moi, me semble à la fois ambitieux et réaliste, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40%. Et ça, c'est possible à condition de réunir tout le monde autour de cet objectif plutôt que de diviser.
Sauf que des divisions, il y en a. Les ONG affirment que le compte n'y est pas. Un slogan repris par l'ancien marcheur, le député Mathieu Orphelin.
C'est faux de dire qu'on est à la hauteur des enjeux. La loi permettra d'économiser 13 millions de tonnes de CO2 en 2030, là où il faudrait plutôt 50 ou 60 millions de tonnes de CO2. Le compte n'y est pas du tout. L'essentiel, c'est comment on peut améliorer les actions et l'ambition de cette loi.
Après le Conseil des ministres, ce sera effectivement au Parlement de travailler le texte. Face à la majorité, l'opposition, les ONG et même une partie du patronat qui dénonce de nouvelles contraintes à des secteurs déjà en crise. Ce sera le dernier texte compliqué du quinquennat, pronostique un ministre. Un texte dont Emmanuel Macron aura besoin pour afficher un bilan le plus vert possible pour 2022.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Autre engagement d'Emmanuel Macron avant la fin de son quinquennat, la lutte contre la pédocriminalité.
Le gouvernement souhaite qu'un nouveau crime soit défini pour pénaliser toute pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans sans qu'il ne soit plus question de consentement. Et puis un nouveau mécanisme juridique, la prescription glissante, permettrait que toutes les victimes d'un même auteur puissent bénéficier d'un procès.
Et on y reviendra avec mon invité tout à l'heure à 6h40. Justement, dans ce contexte, on a appris que Gérard Louvain et son mari sont désormais visés par 4 nouvelles plaintes pour viol et agression sexuelle.
Elles font suite à une première plainte déposée le 8 janvier dernier par le neveu du producteur de télévision. Une enquête est ouverte par le parquet de Paris pour complicité et viol sur mineur de 15 ans ainsi que corruption de mineur. Et Gladys Laffitte, le couple dément formellement ces nouvelles accusations.
Oui, des faits qui se seraient passés dans les années 80 et 90, a priori prescrits donc. Les plaignants sont tous des hommes qui avaient entre 11 et 19 ans à l'époque des faits. Ils ont aujourd'hui la quarantaine ou la cinquantaine. Et ce que certains décrivent, c'est un schéma de prédation et l'impunité du couple Gérard Louvin-Daniel Moine. Maître Pierre de Buisson est l'avocat des victimes présumées.
Grégory C. a perdu son père et Daniel Moine, petit à petit, s'est présenté comme un père de substitution, a développé un lien de confiance pour mieux le trahir finalement. Et ce qui choque, c'est ce même récit d'emprise sur des enfants qui vont participer à des jeux sexuels, d'abord de masturbation, puis de fellation, et ça ira jusqu'à des sodomies. C'est quelque chose d'absolument insoutenable.
Alors Gérard Louvin a réagi à ces nouvelles accusations qu'il qualifie d'affabulation. « C'est indécent pour les vraies victimes et insupportable pour les faux coupables que nous sommes », a écrit le producteur sur son compte Twitter. Le couple a aussi annoncé avoir déposé plainte à son tour.
Gladys Laffitte.
Prudence, hein, si vous devez prendre la route, Laurent Cabrol, vous le disiez, une couche de neige a envahi une partie du nord du pays. En Ile-de-France, les poids lourds sont interdits de circuler. Sachez que les écoles vont rester fermées aujourd'hui. Tous les établissements scolaires fermés dans les Yvelines. La N118 est également fermée ce matin.
Marine Le Pen devant la justice aujourd'hui à la veille du débat avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la présidente du Rassemblement National comparée avec l'eurodéputé Gilbert Collard pour avoir publié en 2015 sur son compte Twitter des photos d'exactions commises par l'État islamique. Un procès à l'allure de tribune politique. Claudia Bertram.
Elle n'y va pas pour cueillir des fleurs, lâchant de ses proches. Marine Le Pen ira à son procès car elle estime qu'il a le parfum de la persécution. Rengaine habituelle du Rassemblement National face à la justice, cette élue l'assure, elle subit une instrumentalisation depuis des années. Jugée pour avoir tweeté des photos d'exactions de Daesh passibles de 3 ans de prison, la patronne du RN veut faire de ce rendez-vous judiciaire une tribune politique, à en croire ses proches. Alors que le projet de loi séparatisme est débattu en ce moment à l'Assemblée, c'est un cadeau qu'ils nous font aux encadres selon qui le système tape plus sur ceux qui dénoncent l'islamisme que ceux qui le défendent. On n'a pas honte de dénoncer une idéologie totalitaire, on est dans notre rôle, abonde ce proche. Ce que ne manquera certainement pas d'exprimer Marine Le Pen, d'abord au tribunal cet après-midi et demain soir face à Gérald Darmanin.
Patrick Balkany, mis en examen pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics pour des soupçons d'utilisation frauduleuse de locaux appartenant à la ville de Levallois-Perret.
Direction la Chine, à présent, où l'on s'apprête à fêter la nouvelle année, celle du buffle de métal.
Une période traditionnellement festive où les familles se retrouvent, où les expatriés retournent au pays, mais pas cette année. Face à la situation sanitaire, le gouvernement a imposé des restrictions strictes pour limiter les déplacements. Sébastien Lebelzik.
Des lampions rouges ont été installés le long des rues, mais c'est à peu près tout. Pas de grande fête cette année encore pour le nouvel an chinois. Le gouvernement appelle la population à rester chez elle et annule toutes les festivités. Cette Pékinoise se prépare à un réveillon bien morne.
En ce moment, il n'y a plus d'activité pour le nouvel an. Avant, il y avait des fêtes dans les temples, mais là, tout est annulé. Je vais juste voir ma famille ici à Pékin et c'est tout.
Une centaine de nouveaux cas ont été détectés au début du mois à Pékin et dans les régions alentours. Depuis, des mesures très strictes ont été prises pour éviter la propagation du virus. 85% des Pékinois ont donc annulé leur voyage en province, comme l'explique ce couple de retraités.
Pour le nouvel an, on va juste organiser un petit dîner en famille le soir. Et puis chacun va rentrer chez lui. On reste ici à Pékin, chez nous. Avec ma femme, nous allons sortir le moins possible. On fera juste un dîner demain soir.
Le nouvel an chinois est généralement synonyme de la plus grande transhumance du monde. 3 milliards de voyages pour visiter sa famille. Et parfois, c'est le seul moment de l'année qu'ils peuvent passer ensemble. Mais l'épidémie a eu raison, cette fois encore, des festivités. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
En France, la barre des 80 000 morts a été franchie. Par ailleurs, 26 touristes français en voyage au Costa Rica ont été testés positifs au coronavirus. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et puis désormais, tous les voyageurs arrivant en Angleterre devront se soumettre à 2 tests PCR au 2e et 8e jour d'un isolement obligatoire de 10 jours. Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 113 000 morts.
On vous avait déjà parlé de Cyberpunk 2077, ce jeu vidéo très attendu, critiqué aussi dès sa sortie pour de nombreux bugs. C'est un jeu dans lequel vous incarnez un pirate informatique.
Alors peut-on parler de jeu prémonitoire ? Le studio polonais qui a produit ce jeu vidéo vient d'être victime d'une cyberattaque, une vraie. Ses serveurs ont été siphonnés et les pirates sont désormais assis sur une mine d'informations. Clément Le Saffre.
Les gens vont voir à quel point votre entreprise est, je cite, « merdique ». C'est la seule revendication des pirates exprimée dans une note virtuelle laissée sur les serveurs de CD Projekt et rendue publique par le studio. Dans ce mot, les hackers affirment avoir récupéré des contrats juridiques, des documents, des ressources humaines, la comptabilité de CD Projekt et surtout le code source de plusieurs jeux, une véritable mine d'or qu'ils menacent désormais de vendre aux plus offrants. Les pirates ont donné 48 heures au studio polonais pour prendre contact avec eux, une échéance qui expire aujourd'hui, mais CD Projekt a fait savoir qu'il ne négociera pas, quitte à risquer la publication de ses données. C'est donc un nouveau coup dur pour le studio, déjà empêtré dans le scandale Cyberpunk 2077, son dernier jeu sorti en décembre, et dans lequel, ironie du sort, le héros est aussi un hacker. Un jeu très attendu qui s'est révélé injouable sur la plupart des consoles à cause de bugs majeurs. Résultat, en deux mois, l'action de CD Projekt a chuté de 40%, générant au passage des milliards d'euros de pertes. Hier, après l'annonce du piratage, le cours a de nouveau plongé de 5%.
Les informations de Clément Le Saffre.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 6h11.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Jérôme Lacroix, votre journal des sports avec à la une Caroline Garcia. Va-t-elle revigorer le tennis français ?
Le grand défi de la joueuse lyonnaise opposée aujourd'hui dans la matinée à la troisième mondiale Naomi Osaka, la japonaise, au deuxième tour de l'Open d'Australie. Premier grand chelem de l'année à Melbourne où pour l'heure, les états de service des tricolores sont bien tristes. Beaucoup de défaites, dont cette nuit, celle d'Alizé Cornet face à l'américaine Lee, 69e mondiale. Cornet, 31 ans, battue par une joueuse de 11 ans, sa cadette, la niçoise très déçue, se pose des questions sur la suite de sa carrière. Elle décidera après les Jeux Olympiques l'été prochain.
J'irai jusqu'à Tokyo et puis après Tokyo, je ferai un point pour voir jusqu'où ça va mener. Mais moi, j'ai quand même 16 ans de circuit dans les pattes et dans la tête et ça se ressent. J'avais déjà envie d'arrêter l'été dernier et puis j'ai fait un bon US Open et ça m'a relancé. Et si, voilà, si on n'a pas la motivation à chaque instant, ben on se fait croquer comme aujourd'hui par des petites jeunes de 20 ans et j'en ai marre d'être déçue. Et on va dire que cette année va se passer et qu'ensuite on verra et que j'essaierai de faire des choses bien jusqu'au bout.
Alizé Cornet avec Corinne Boulou et c'est décidément compliqué pour les Bleus en ce début d'Open d'Australie. Sèche sortie cette nuit d'Alexandre Muller, 210e mondial face au redoutable Argentin Schwartzmann. Corentin Moutet est tout proche de la défaite face au Canadien Raonic. Une éclaircie toutefois, Fiona Ferro vient de se qualifier pour le troisième tour face à la Kazakh Rybakina, tête de série numéro 17.
On en vient au début des mondiaux de biathlon aujourd'hui en Slovénie.
Première épreuve, le relais mixte et une première chance de médaille pour les Bleus. Le foot et la Ligue appellent le gouvernement à l'aide. Les dirigeants demandent un plan de soutien d'urgence face à un manque à gagner qu'ils estiment à 548 millions d'euros. Crise sanitaire, huis clos, pas de recettes billetterie, plus la crise des droits télé après la défaillance de Mediapro. On joue en Coupe de France aujourd'hui suite des 32e de finale. En lice, deux clubs en crise. Marseille joue à Auxerre, club de Ligue 2. Et Nantes, 15 matchs sans victoire, reçoit Lens. Pour l'instant, pas d'effet. Raymond Domenech à Nantes, il a pris en charge l'équipe fin décembre. Son retour en tant qu'entraîneur.
Si vous pensez que je risque d'abandonner, la réponse elle est claire, c'est non. Je veux dire, on est tous conscients de la situation. On sait tous ce qui se passe. L'objectif, c'est de rassembler les énergies pour que tout le monde travaille dans le même sens, continue à travailler dans le même sens jusqu'à la fin de la saison.
Auxerre-Marseille, Nantes-Lens, 14h45. À 21h, le PSG joue à Caen, club de Ligue 2.
Et hier soir, les Lyonnais n'ont pas fait de détails.
Succès 5-1 contre l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. L'OL qualifié pour les 16e de finale comme Lorient et Valenciennes. Et puis, un an après le décès de Kobe Bryant, la star américaine de basket mort dans un accident d'hélicoptère, le pilote de l'appareil est aujourd'hui jugé responsable. Après enquête, l'autorité de sûreté des transports estime qu'il a commis une erreur de pilotage en raison notamment de son amitié avec Kobe Bryant qu'il n'aurait pas voulu décevoir en atterrissant ou en changeant de plan de vol en ce jour d'épais brouillard.
Merci Jérôme Lacroix, 6h14. Europe 1. Et mon invité inattendu m'a rejoint en studio et ce matin elle n'est pas venue de très très loin, c'est une collègue de l'équipe d'Europe1.fr. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel.
Bonjour Margot, merci de venir ce matin dans le 5-7 pour nous présenter une façon assez inattendue justement de se plonger dans l'univers des grands procès au pénal. Vous êtes l'auteur du podcast Mon client et moi, produit par Europe 1 Studio. La saison 2 est lancée ce matin, des entretiens dans l'intimité des avocats pénalistes. Vous nous en dévoilez un petit peu dans un instant. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h17 sur Europe 1. Mon invité inattendu est donc une collègue de bureau. Ce matin, Margot Lanuzel, journaliste à Europe 1.fr, pour le lancement de cette saison 2 du podcast Mon client et moi. Margot, d'un mot, Quel est le principe? Qu'est-ce que vous avez cherché dans ces entretiens avec ces avocats pénalistes?
Alors, Mon client et moi, c'est un podcast qui vous plonge dans la tête des avocats pénalistes, c'est-à-dire qu'ils vous racontent non pas un dossier, mais un client. Donc à la fois l'histoire, les faits qui sont reprochés à ce client, mais aussi toute la relation humaine qui s'est tissée avec lui tout au long de l'accompagnement de ce client, depuis les premières auditions jusqu'au procès. Voilà, donc c'est une manière un peu particulière de raconter la justice.
Ah ouais, des podcasts qui font à peu près 25-30 minutes, donc on a le temps, c'est du temps long et on a le temps de les écouter. Je précise que pour Europe1.fr, ça fait plusieurs années que vous couvrez de grands procès. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans ce monde-là?
Je pense que moi, ce qui m'a intéressé, c'est de raconter justement ce qui se passe dans ces tribunaux qui sont souvent un peu fantasmés, parce que c'est des endroits où on n'a pas le droit d'enregistrer ou de prendre des images ou du son quand on est journaliste. Donc c'est vrai que quand on assiste à tout ça, on voit se nouer des choses qu'on a très envie de raconter. Alors on peut le faire dans des articles, dans des comptes rendus, peu importe le média pour lequel on travaille. Mais là, moi j'avais envie de donner la parole à des acteurs qui vivent ça de l'intérieur et qui puissent raconter justement les arcanes de ce monde judiciaire qu'on imagine un peu fantasmé parfois, je pense.
Et là, on voit surtout ce qui se passe en dehors de la salle d'audience, avant et pendant le procès.
Tout à fait.
Avec notamment cette question qui revient assez souvent, comment en arriver à défendre un monstre, même quand on connaît les faits qu'il a commis et même quand on sait qu'il est coupable, elle est compliquée à saisir, cette question.
Absolument. En fait, donc c'est la saison 2 qui sort aujourd'hui. Dans la saison 1, on l'avait abordé, cette question des monstres tels qu'on les imagine, et de cette question que les avocats, qu'on leur pose à table, en fait, comment tu fais pour les défendre? Et là, on va un petit peu plus loin dans l'épisode 1 qui sort aujourd'hui, avec des avocates, deux avocates, parce que par épisode, il y a toujours deux avocats, là c'est deux avocates en l'occurrence, mais deux histoires. Qui racontent deux accusées de crimes qu'elles ont défendus. Et elles se sont retrouvées dans une position un peu particulière parce qu'elles se sont reconnues d'une manière ou d'une autre dans les victimes, donc les parties civiles, tout en étant dans le camp justement de la personne accusée d'un crime.
Alors on va écouter justement un extrait, on va écouter l'une de ces deux avocates. Elle s'appelle Dorothée Bisakia Bernstein et elle raconte un procès pour viol. Elle défend, vous l'avez dit, l'agresseur, et elle raconte justement le premier face-à-face dans la salle d'audience avec les victimes.
Dans mon champ de vision, j'ai les plaignantes, donc les deux jeunes femmes qui se plaignent d'avoir été violées.
Dorothée Bisakia Bernstein regarde d'abord la jeune prostituée.
Elle a l'air de souffrir et elle a l'air misérable. Et elle a dans les yeux un âge qui est évidemment pas le sien.
L'autre plaignante semble plus jeune.
Elle est très très maigre et elles sont toutes les deux visiblement terrorisées lorsqu'elles regardent mon client qui est derrière moi.
Quand on entend ça, Margot Lanuzel, on comprend que ça la bouleverse en tant que femme de voir ses victimes de viol. Et pourtant, elle doit défendre le violeur. Comment est-ce qu'elle gère ça?
C'est précisément ce qu'elle nous raconte, et vous l'avez entendu de l'intérieur, de manière assez intime en fait. C'est de toute façon un exercice assez intime pour les avocats qui nous racontent ce qui se passe dans leur tête. Cette avocate-là, qui est donc dans l'épisode qui sort aujourd'hui, ça a été un exercice encore plus intime pour elle que pour les autres, parce que l'histoire qu'elle raconte, que je ne vais pas vous dévoiler parce qu'il faudra écouter l'épisode, est très très personnelle. C'est une histoire dont elle a parlé à très peu de gens. Et qu'elle nous a raconté, qu'elle a accepté de nous raconter.
Ça réveille quelque chose en elle. L'histoire de ce procès réveille quelque chose en elle et elle doit gérer avec son histoire personnelle.
Absolument.
Et c'est le thème de ce premier épisode. Alors, dans vos podcasts, on apprend aussi que certains avocats pénalistes, finalement, ne défendent que des accusés, y compris de faits extrêmement graves, et jamais les victimes. Et d'autres avocats, eux, sont spécialisés dans la défense des victimes et ne défendront jamais les accusés. Il y a une répartition des tâches comme ça?
En fait, il y a autant de manières d'être avocat pénaliste que d'avocat pénaliste, et c'est bien souvent ce qu'ils nous racontent. Très souvent, dans les histoires qui nous sont racontées dans le podcast sont des histoires vécues assez tôt dans les carrières des avocats, parce que c'est celles-là qui sont marquantes, qui leur restent. Et c'est à partir de ces histoires-là qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être plus faits pour défendre des accusés ou bout des victimes, ou parfois les deux. En fait, il n'y a pas tellement de règles ou de répartition claire. C'est un peu... un peu comme chacun se sent capable de le faire, quoi.
Et il y en a un qui a vécu de très nombreux grands procès, c'est Maître Henri Leclerc, qui depuis a pris sa retraite, qui raconte ses premières années d'avocat dans les années 60, dans l'épisode 2 qui sortira la semaine prochaine. 5 épisodes en tout, un chaque mercredi, donc jusqu'au 10 mars. Mon client et moi, le nouveau podcast, la deuxième saison du podcast d'Europe 1 Studio, à retrouver donc sur europe1.fr, sur toutes les plateformes de podcast.
Absolument.
Facile à trouver. Mon client et moi, signé Margot Lanuzel, réalisation Christophe Davio, avec comme chef de projet Fanny Rascle et Adèle Ponticelli. Merci à Margot Lanuzel d'être venue nous présenter et lancer cette saison 2 dans le 5-7.
Merci.
À bientôt.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h22 sur Europe 1. Attention, pas de ramassage scolaire aujourd'hui dans les Yvelines où l'ensemble des établissements scolaires sont fermés en raison de la neige. Pas de ramassage non plus dans l'Essonne, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne. 31 départements de la Bretagne au Grand Est sont en alerte orange, neige, verglas. Le seuil des 80 000 morts du Covid franchi en France alors que l'épidémie continue de gagner du terrain. Le Parlement a validé hier la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Et puis plusieurs cas du variant sud-africain du virus détecté dans deux lycées du Haut-Rhin. Par mesure de précaution, la plupart des élèves ont été placés à l'isolement. 6h24, c'est l'heure de la partition d'Omblin Roche, l'histoire qui se cache derrière une artiste. Son nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, vous connaissez sans doute certaines de ses plus grandes chansons qu'elle a écrites pour d'autres. Omblin, vous nous parlez de Carole King.
Compositrice puis interprète, Carole King, Sébastien, épaulé par son mari Jerry Goffin, a posé sa signature sur la musique populaire des années 60 et 70, mais pas seulement. Voilà The Reason, chantée par Céline Dion en 1997, c'est elle.
Carole King est née sous le nom de Carole Klein à Brooklyn. Adolescente, elle jongle avec les cours et l'écriture de chansons.
Sur les bancs de l'école, elle rencontre Jerry Goffin, qu'elle finit par épouser. Carole King développe naturellement un don pour la mélodie. Jerry Goffin endosse le rôle de son complice parolier et va le rester pendant 10 ans.
Un jour de 1960, elle s'absente et laisse à la maison la partition, tiens, d'une chanson.
Et un quart d'heure plus tard, son compagnon griffonne quelques paroles. Will You Love Me Tomorrow devient le tout premier numéro 1 d'un groupe de chanteuses noires aux États-Unis, The Shirelles. Ce succès permet au tandem de laisser tomber leur boulot respectif pour vivre exclusivement de leur plume.
Dès lors, ils vont au bureau tous les jours pour écrire des chansons.
Pour enchaîner des succès, qu'ils soient pop, rock ou rhythm and blues, si Carole King est le moteur dans le processus de création, Jerry Goffin possède, dit-elle, le don rare d'entrer dans la tête des femmes. The Locomotion, en 1962 pour Little Eva, fait le tour du monde, mais leur chef-d'œuvre reste You Make Me Feel Like a Natural Woman, devenu l'hymne d'Aretha Franklin. Life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind, 'cause you make me feel.
Une centaine de succès au compteur, hein, mais le couple, lui, va mal.
Carole King et Jerry Goffin divorcent en 1968. C'est sans lui qu'elle se met à écrire ses propres chansons, qu'elle se décide à s'installer devant le micro, de passer de l'ombre à la lumière. Avec son troisième album en 1971, la désormais chanteuse joue la carte de l'authenticité avec des arrangements simplifiés à l'extrême. Carole King est au piano, soutenue par une simple formation, guitare, basse, batterie. Le charme opère doucement rock. Carole King interprète sur ce disque baptisé Tapestry ses propres versions, des tubes écrits pour d'autres, mais également des chansons jamais entendues jusqu'alors. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too. To be so.
so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something
late, Carole King, extrait de son album de référence Tapestry, sorti il y a 13 exactement 50 ans, c'était le 10 février 71.
Un disque vendu à plus de 25 millions d'exemplaires, personne ne fera mieux qu'elle avant Thriller de Michael Jackson 11 ans plus tard.
25 millions d'exemplaires en 1971, la partition, signé Omblin Roche, merci à demain.
Merci.
Laurent Cabrol, nous surveillons, nous suivons cette neige.
Oui, la trace. Et croyez-moi, c'est pas sympa. Alors, en général, il est tombé 2 à 5 cm avec des pointes à 10 cm. Ça, c'est la tendance générale. Où neige-t-il en ce moment ? Il neige encore un peu en Ille-et-Vilaine, un peu en Bretagne. Mais la Bretagne se dégage. Quand je dis un peu en Ille-et-Vilaine, c'est du côté de Saint-Malo, la neige. Mais vraiment, la Bretagne s'améliore considérablement. La Sarthe, la Touraine, il neige encore. Ça ne va pas durer. Ça va finir avant 10 heures. La région parisienne, il y a encore des chutes de neige sur le nord et l'ouest de Paris. La Lorraine et l'Alsace, il neige encore. Bon, au total ce soir, qu'aurons-nous comme centimètres de neige ? 2 à 5 cm en Ile-de-France. Vous voyez que c'est pas énorme, hein. Mais quand je parle de neige, je parle de verglas aussi, parce que là, 2 à 5 cm, ça veut dire qu'on roule pas beaucoup, hein. Dans le Doubs, les Vosges, la Haute-Saône, l'Alsace et le territoire de Belfort, il sera tombé entre 10 et 12 cm. Sur la Mayenne et les Côtes d'Armor, 10 cm. Dans Lyon, la Côte d'Or et l'Aube, 5 à 10 cm. Voilà. Donc parfois, si vous voulez, on va autour de 1 à 2, parfois on est autour de 5 à 10. Le froid, il va s'accentuer. Mais vous le croyez ou non, eh bien nous aurons dans l'après-midi un temps ensoleillé sur une bonne moitié nord. C'est-à-dire que pratiquement en nord de la Loire, il va faire soleil. Et oui, ça paraît incroyable à l'heure où nous parlons, mais c'est ainsi. Malheureusement, le froid, la bise polaire, la bise glaciale est toujours là. Et donc, rien ne va fondre et vous allez avoir des difficultés de circulation si ça n'a pas été traité. Allez, sur la moitié sud, Poitou-Charentes, un ciel couvert, sud-ouest, des averses. Mais sur le bassin méditerranéen, un ciel voilé et doux. Mais sur la moitié sud, toutes les températures sont positives.
Merci à vous Laurent Cabrol. Et à tout à l'heure, juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Manger avec des gens, discuter avec ses potes, tout ça, ça fait depuis mars de terminale qu'on l'a pas fait.
Ils sont passés directement de la cantine du lycée au resto U de leur fac, mais avec un an d'intervalle. Et au passage, ces étudiants de première année découvrent un peu mieux leurs camarades. L'Europe a-t-elle été à la hauteur dans ses négociations avec les labos pharmaceutiques pour les vaccins ? La présidente de la commission est contrainte de répondre aux députés européens ce matin. Et puis les JO de Tokyo se préparent avec des règles sanitaires tellement strictes que les athlètes vont bientôt recevoir tout un guide spécialement rédigé.
Après le journal, il ne sera plus question d'interroger le consentement avant l'âge de 15 ans. Le gouvernement a annoncé sur Europe 1 hier soir des mesures pour mieux poursuivre et mieux condamner les crimes d'inceste. Dans 10 minutes, la réaction en direct de la présidente de l'association face à l'inceste, Isabelle Aubry. Bienvenue sur Europe 1, bon réveil.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est une toute petite ouverture, mais quelle différence cela fait. 2 semaines après les repas à emporter à 1 euro, voilà la possibilité inaugurée hier de prendre des déjeuners à table dans les restaurants universitaires. Alors on va le voir avec ce reportage d'Hélène Terzian. Les étudiants n'ont jamais autant apprécié la bonne vieille cantoche.
Moi, cette ambiance, elle me manquait un peu. Ambiance cantine à l'ancienne, quoi.
Le plan de table n'est pas franchement le même qu'avant. Edouard est assis à 2 mètres de ses camarades de promo en première année, mange avec des couverts jetables, mais il déguste.
Ça fait depuis mars de terminale qu'on l'a pas fait. Bah, de manger avec des gens, discuter avec ses potes, tout ça, c'est rare.
Plus loin, sur la banquette, son ami Marceau approuve. Ces instants qui semblent anodins aident à l'intégration dans la vie étudiante.
C'est vraiment peu de choses, mais ça vaut de l'or pour nous, quoi, parce qu'on n'a pas eu d'organisation d'événements ou de soirées par le BDE, donc on se découvre un peu là, avec 6 mois de retard. Bah, on a le temps de discuter, quoi, et ça change beaucoup. On n'est plus dans un contexte de cours, dans un contexte académique.
Ici, on sort de ses bouquins et de chez soi, poursuit Julie.
Franchement, oui, ça fait du bien. D'habitude, on est là dans nos tout petits apparts, on reste tout confiné, mais là, on voit aussi qu'il y a plein d'autres étudiants autour de nous qui sont dans le même cas, qui viennent. C'est rassurant et ça donne un peu d'espoir, on va dire.
Espoir partagé à la table voisine par Lydia.
C'est la première étape. On espère arriver aux autres aussi.
Là, comme les bars, oui.
un peu cliché, mais oui, les boîtes et tout ça.
En attendant de pouvoir danser, l'étudiante se satisfait de cet aparté à l'heure du déjeuner.
Un reportage d'Hélène Terzian. Sur la pandémie, on retient ce matin ces chiffres. Le cap des 80 000 morts du Covid est franchi en France. Plus encourageant côté vaccination, 366 000 personnes ont reçu leurs deux doses et plus d'1 600 000 ont eu une première injection.
Les vaccins qui valent une petite séance d'explication à la présidente de la Commission européenne ce matin.
Oui, Ursula von der Leyen, auditionnée sur sa stratégie, les commandes, les contrats, les livraisons de vaccins. Isabelle Horry, question-réponse à 9h face aux députés européens qui veulent savoir pourquoi l'Europe semble en retard.
Oui, les élus européens ont été tenus à l'écart de la négociation des contrats de vaccins. Aujourd'hui, ils demandent donc des comptes à l'image du socialiste belge Marc Tarabella.
J'attends vraiment une franchise de Mme von der Leyen sur le pourquoi du raté, parce que tout le monde nous dépasse, alors qu'on a été parmi les principaux pourvoyeurs de fonds pour financer la recherche qui a abouti au vaccin.
Pour autant, personne ne remet en cause l'achat en commun des vaccins. La libérale néerlandaise Sophie Henfeld s'inquiète plutôt du manque de pédagogie de la présidente de la Commission.
Sur le plan gestion, communication, elle n'a pas très bien fait et ça a quand même un impact sur la confiance des citoyens.
Tout n'est pas parfait, reconnaît Véronique Trier-Lenoir. Mais pour cette macroniste, si l'Europe est coupable, c'est d'avoir cru les laboratoires, surtout AstraZeneca, qui ne tient pas ses promesses.
C'est des faiblesses de jeunesse, de première fois. Ce qui a manqué le plus, ce n'est pas tant la transparence que la réciprocité de la confiance dans un contrat, que clairement AstraZeneca n'a pas suivi.
Hier soir, la Commission a publié un troisième contrat, celui de Sanofi-GSK. Un petit geste en direction des eurodéputés.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. On était avec des étudiants il y a un instant. On sait que l'apprentissage est une voie assez positive pour accéder à l'emploi. Encore faut-il trouver le bon centre de formation ou le bon lycée professionnel. Les jeunes et leurs familles sont souvent démunis quand ils doivent faire leur choix.
Mais ça devrait changer avec la mise en ligne depuis hier soir d'une nouvelle plateforme internet qui permet aux candidats de comparer tous les établissements de France à travers une batterie d'indicateurs. Olivier Samain.
InsertJeune, c'est le nom de cette nouvelle plateforme. Elle vous permet d'avoir des informations très précises sur le CFA ou le lycée professionnel qui vous intéresse tout près de chez vous ou à l'autre bout de la France. Ces résultats en matière d'insertion, par exemple. Combien d'élèves qui ont fini leur formation dans l'établissement sont en emploi 6 mois après? Mieux, la valeur ajoutée de l'établissement. Le CFA ou le lycée pro qui recrute des apprentis de bon niveau n'aura pas trop de mérite à afficher un bon taux d'insertion 6 mois après la sortie. La valeur ajoutée, elle, permet d'identifier l'établissement qui offre une bonne chance d'insertion à des élèves au bagage moins solide au départ. Autres indicateurs, le taux de poursuite d'études ou la part des contrats d'apprentissage interrompus avant leur terme. C'est la loi Avenir professionnel, votée il y a un peu plus de 2 ans, qui avait prévu la mise en service de cette plateforme pour permettre aux jeunes de faire un choix éclairé. Jusque-là, il y avait bien des enquêtes, mais leurs résultats n'étaient pas toujours très fiables et ne permettaient pas d'avoir des données au niveau de chaque établissement. Maintenant, c'est possible.
Olivier Samain du service économie d'Europe 1, et heureusement qu'on parle des jeunes qui sont assez doués avec Internet et avec tout ce qui est lié au web, puisque ce site dont nous parle Olivier Samain, c'est insertjeune.education.gouv.fr. Il faut un petit peu trouver insertjeune, insert santé à la fin et en un seul mot, et au pluriel, insertjeune. Voilà, et puis si vous voulez faire plus simple, il y a autre chose, il y a Europe1.fr, puisqu'en cette semaine spéciale en faveur des jeunes, nous ne sommes même pas à la mi-temps de notre opération, hashtag Europe1 solidaire. Et il y a déjà plus de 20 000 offres d'emploi, principalement en CDI, sur une carte de France, carte interactive, qui est donc à retrouver sur Europe1.fr. C'est tout simple.
6h36, en sport, Tokyo fait tout pour tenir son engagement et organiser les Jeux, même si le Covid circule toujours et que la population est globalement en faveur d'une annulation.
Oui, les organisateurs tiennent bon. Ils viennent d'ailleurs de publier un guide à destination des athlètes, avec beaucoup de restrictions. Cyril de la Morinerie, on sera loin de l'ambiance carioca de Rio il y a 5 ans.
Oui, c'est un document de 33 pages avec des règles draconiennes. Les athlètes devront bien sûr porter un masque à tout moment, sauf pour manger, dormir, mais aussi pendant la compétition. Les sportifs sont invités à rester dans la zone olympique. Il faudra justifier tous ces déplacements et l'utilisation des transports en commun sera soumise à autorisation. Interdiction en tout cas de se rendre dans un gymnase, une zone touristique, un restaurant ou un bar. Le séjour au Japon devra également être limité. Les participants seront testés au moins tous les 4 jours et devront éviter toute forme de contact physique inutile, précise le guide, même si les organisateurs prévoient toujours de distribuer 150 000 préservatifs gratuits aux athlètes. Au Japon, on ne badine pas avec les règles. Pour tout manquement répété ou grave, l'athlète fautif sera exclu des Jeux Olympiques.
Cyril de la Morinerie.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1. Il est 6h38. Europe 1. Et j'accueille l'invité de ce 5-7. Bonjour Isabelle Aubry.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous présidez l'association Face à l'inceste. Le gouvernement avait promis une réponse au mouvement de libération de la parole qui fait suite à l'affaire Duhamel. Ces propositions ont été dévoilées, c'était hier soir sur Europe 1, avec le secrétaire d'État Adrien Taquet.
Christian Krebs sur Europe 1.
Tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime, sans qu'il ne soit plus question de consentement.
Voilà, plus question de s'interroger sur le consentement avant 15 ans. Délai de prescription assoupli également pour que les victimes soient mieux reconnues. On va revenir sur ces annonces. Votre regard, votre première réaction dans un instant. À tout de suite. Il est 7h20. L'invité du 5-7 ce matin est la présidente de l'association Face à l'inceste. Isabelle Aubry, je le disais, le secrétaire d'État Adrien Taquet a choisi Europe 1 hier soir face à Julien Bugier pour dévoiler le projet du gouvernement en réponse à cette vague de témoignages qui émergent depuis la mise en cause d'Olivier Duhamel. Arrêtons-nous ensemble sur ces mesures. D'abord, on ne parlera plus de consentement avant l'âge de 15 ans. Est-ce que ce principe est en soi une forme de révolution ?
Partiellement, parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'on ne parlera plus de consentement avant l'âge de 15 ans pour les actes avec pénétration sexuelle. Donc, pas de réponse pour l'instant en ce qui concerne les agressions sexuelles, c'est-à-dire sans pénétration, qui représentent l'immense majorité des infractions.
Aujourd'hui, c'est à la victime de prouver qu'elle n'était pas consentante, même en dessous de cet âge de 15 ans.
Oui, tout à fait, parce que on considère l'enfant comme un adulte, et quel que soit son âge, et quel que soit l'auteur, pour pouvoir qualifier un viol ou une agression sexuelle, eh bien, il faut prouver qu'il y a violence, menace, contrainte ou surprise. Donc, l'idée du législateur, là, c'est qu'on enlève cette violence, menace, contrainte ou surprise.
On n'aura plus besoin de s'interroger, en tout cas, vous le précisez, pour les actes de pénétration sexuelle. Vous aviez demandé, vous, lors des consultations, à aller plus loin, puisque vous avez, je précise, été consulté sur ces questions-là.
Oui, ça nous semblait évident que toutes les infractions concernant les mineurs, et pas seulement les infractions avec pénétration sexuelle, devaient être concernées par ce seuil d'âge. Pourquoi ? Parce que en France, il y a à peine 1000 condamnations pour viol par an, dont la moitié sur mineurs. Donc on voit que cette disposition va concerner très très peu en fait d'affaires. Et que comme on n'arrive pas à juger tous les viols en France parce qu'on n'a pas assez de possibilités en cour d'assises, et ben qu'est-ce qui se passe ? Les viols sont correctionnalisés, c'est-à-dire qu'on les juge comme des agressions sexuelles. Et si on ne met pas ce seuil d'âge pour les agressions sexuelles, eh ben on n'avance pas beaucoup, beaucoup.
Alors la deuxième annonce porte sur le délai de prescription qui resterait à 30 ans, mais qui deviendrait ce que le gouvernement appelle glissant. En fait, on ne le prend en compte que pour la dernière agression connue, et on juge toutes les victimes, y compris les victimes qui sont au-delà de ces 30 ans. Ça vous semble suffisant ou vous auriez aimé que ces crimes deviennent imprescriptibles ?
Nous, on souhaite l'imprescriptibilité depuis 20 ans, mais j'ai envie de rajouter quelque chose sur le seuil d'âge. Il n'y a eu aucune mention du seuil d'âge pour l'inceste. Là, si on s'en tient à un seuil d'âge à 15 ans pour toutes les victimes, ça voudrait dire qu'à partir de 15 ans et un jour, un enfant est susceptible de consentir à l'inceste.
En tout cas, la question
serait
posée après 15 ans.
Là, on attend encore des précisions. Et on attend encore des précisions pour cela. Parce que nous demandons un seuil à 18 ans pour l'inceste.
Vous demandez un seuil à 18 ans.
Voilà, bien sûr. Concernant la prescription, c'est vrai que ce serait une avancée pour les victimes qui sont prescrites. Par contre, ça va pas assez loin. Parce que nous, la prescription, l'imprescriptibilité, nous considérons que c'est une protection pour les enfants, c'est-à-dire qu'on puisse poursuivre les agresseurs toute leur vie, permet aussi d'éviter de nouvelles victimes.
En conclusion, ces annonces, vous les trouvez partielles, insuffisantes? Comment vous les qualifiez ce matin?
Là, on fait 10% du chemin. J'espère qu'on ne va pas s'arrêter là, parce que ça voudrait dire que c'est complètement insuffisant. Mmh. Oui, tout à fait.
Il y a une question qui n'est pas tranchée, a dit hier soir Adrien Taquet, qui est celle de définir ou non une infraction spécifique pour l'inceste dans le code pénal. Est-ce que vous y êtes favorable?
C'est ce que nous demandons depuis 20 ans et ça fait 20 ans qu'on nous répond la même chose, que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est pas nouveau que le gouvernement a des difficultés avec l'inceste. Mmh.
Vous racontez dans votre livre, Isabelle Aubry, que vous-même, qui avez subi des violences sexuelles très jeunes de la part de votre père, avez survécu grâce à la négation du crime que vous avez subi. Est-ce que vous avez espoir qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ce ne soit enfin plus le cas pour les victimes ?
La négation, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Vous écriviez que vous avez nié, en fait, vous avez occulté ce qui s'est passé pour survivre à tout ça.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le déni ?
Oui, voilà.
Oui, c'est un système de protection très connu, en fait, hein, qui permet aux victimes de survivre à ce qu'elles subissent. Et qui fait qu'en fait, les victimes vont révéler les faits en moyenne 16 ans après les faits. C'est pourquoi, des fois, c'est beaucoup plus long. Hein, c'est tout un travail de reconstruction avant de pouvoir parler, souvent pour protéger d'autres victimes. Donc il faut laisser le temps au temps. C'est pourquoi beaucoup de pays, en fait, ont jugé que les crimes les plus graves doivent être imprescriptibles. Tous les pays du common law fonctionnent comme ça. Donc pourquoi nous avons tant de difficultés? Moi, je n'arrive pas. Enfin, nous n'arrivons pas à le comprendre.
Vous avez espoir que les choses changent vraiment avec ce mouvement de libération de la parole aujourd'hui, Isabelle Aubry?
Oui, mais on sent qu'il y a quand même des freins, que le gouvernement agit sous la pression de la société civile, mais qu'il y a encore des freins à l'interne. Nous, on les connaît bien, ces freins, ça fait 20 ans qu'on s'y confronte. Et on espère vraiment que le garde des Sceaux va réussir à avancer là-dessus, parce que ça commence à être épuisant.
Merci à vous Isabelle Aubry d'avoir été en direct avec nous ce matin, présidente de l'association Face à l'inceste, et nos excuses auprès de nos auditeurs pour quelques difficultés techniques de liaison avec vous ce matin. Il est 6h47.
Europe 1.
L'innovation d'Anissé Mbida est à suivre, à tout de suite. 6h48 sur Europe 1, Laurent Cabrol nous rejoindra dans une petite dizaine de minutes maintenant pour un point météo complet. Prudence, si vous devez prendre la route dans les heures qui viennent, plusieurs centimètres de neige en Ile-de-France et jusque sur le Grand Est, la neige qui tombe depuis hier soir et qui tient au sol dans de très nombreuses régions. Les poids lourds sont interdits de circulation en Ile-de-France, la N118 fermée, les établissements scolaires n'ouvriront pas dans le département des Yvelines, pas de ramassage scolaire non plus dans l'Essonne, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Le directeur de Sciences Po Paris, Frédéric Millon, démissionne, conséquence de l'affaire Duhamel, des soupçons d'inceste dont Frédéric Millon avait été mis au courant dès l'année 2018. Et puis Marine Le Pen et Gilbert Collard à la barre du tribunal de Nanterre aujourd'hui, jugés pour avoir diffusé sur Twitter en 2015 des images insoutenables d'actes commis par le groupe État islamique. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour. Ah, on revient sur la viande de culture. Vous nous en avez déjà parlé ici, cette viande créée en laboratoire. Alors jusqu'ici, on arrivait à faire de la viande hachée, des nuggets, de la chair à saucisse. Mais pour la première fois, on vient de créer une véritable
entrecôte.
Oui, et ça, je savais que ça allait vous plaire, parce que ça pourrait tout changer. On vous a mis une photo sur le hashtag Europe 1. Et c'est un vrai steak, épais, avec le gras, les nerfs, les fibres du muscle et toute la texture d'un véritable morceau de viande, comme on en trouve chez le boucher. Sauf qu'il a été cultivé en laboratoire avec une technique de bio-impression de cellules de bœuf. Ça veut dire qu'on pourra imprimer n'importe quel morceau, de la bavette, du faux filet, un onglet. On pourra aussi contrôler la saveur, si on préfère de la charolaise ou de l'aubrac, tout ça de façon éthique, durable, puisque vous l'avez dit, on ne blesse aucun animal.
On est vraiment même dans la différence entre la charolaise et l'aubrac. Oui. C'est vrai que visuellement, en tout cas, ça ressemble en tout point à une entrecôte. Alors, la question, c'est un peu, est-ce qu'on cherche vraiment ça aujourd'hui, de la viande créée en laboratoire? Il y a plutôt un retour vers l'authentique, vers le bon produit en ce moment.
Oui, c'est vrai, mais il y a aussi de plus en plus de Français, 40% qui deviennent flextariens, c'est-à-dire qui cherchent à manger moins de viande. Et ils ont été les premiers à se précipiter sur les steaks végétaux qui sont pourtant qu'un assemblage chimique de protéines aromatisées. Mais c'est aussi vrai que jusqu'ici, la viande de culture, ça ressemblait pas à de la viande, mais plutôt à une espèce de bouillie de cellules. Donc il était important de reproduire non seulement le goût, mais aussi l'aspect d'un morceau de viande. Et c'est pour ça que cette technique pourrait tout changer. Et c'est une technique qu'on doit aux Israéliens d'Alep Farm.
Ça coûte combien ?
Cher, autour de 80 euros le kilo. Oui, c'est pourquoi ils vont d'abord cibler les morceaux d'exception, du bœuf de Kobe par exemple, un peu moins cher, ou une araignée de 2 kilos, c'est le morceau favori des bouchers.
Et ils sont capables de reproduire ça ?
N'importe quel morceau, de n'importe quelle taille, pour avoir une entrecôte de 2 mètres, si vous voulez, carrément. D'après leurs calculs, il faudra encore attendre 3 ans pour arriver à la parité de prix avec de la viande d'élevage, mais ça s'améliore et ça progresse extrêmement vite. Est-ce qu'on voudra en manger ? Telle est la question.
C'est une bonne question. Le retour des grands chefs de Top Chef ce soir à la télévision, je ne sais pas si ça leur plairait beaucoup
De la viande de Kobe,
je suis sûr que bœuf de Kobe de laboratoire. L'innovation du jour, c'est Yanissa Mbida. Et allez voir sur le hashtag Europe 1 cette entrecôte qui, c'est vrai, visuellement ressemble vraiment en tout point à une entrecôte réelle. 6h52. Et nous ouvrons votre revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1. Sur tous les continents, on commence en Grande-Bretagne. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une à Londres ?
Alors, la presse britannique s'intéresse à Winchester College, une prestigieuse école de garçons anglaise qui ouvre ses portes aux filles. Son proviseur rompt avec 640 ans de tradition, nous apprend le magazine Tatler. Dès la rentrée 2022, les filles seront admises à partir de la classe de seconde. Dans le Times, le proviseur affirme que ce choix fait partie d'un plan de modernisation de l'école visant à transcender les barrières de genre et de classe sociale. Et il ajoute « Par le passé, nous avons formé de nombreux leaders, nous espérons former ceux du futur et ce seront des hommes et des femmes. Le débat sur l'admission de filles dure depuis 122 ans à Winchester College. Selon la presse, depuis MeToo, toutes les écoles prestigieuses réservées aux garçons en Angleterre se posent sérieusement la question de la féminisation.
Merci Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres. Nous allons à présent aux États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Qu'est-ce qui occupe les médias à New York ?
Eh bien, le piratage d'un réseau d'eau potable en Floride, près d'une ville de 15 000 habitants, attaque déjouée vendredi au bout de quelques minutes grâce à la vigilance d'un employé, raconte le Miami Herald. Il a vu sur son écran d'ordinateur le pirate prendre le contrôle de la souris, changer les paramètres et augmenter le niveau de soude dans l'eau. Le public n'a jamais été en danger, rassurent les autorités citées dans USA Today. Il aurait fallu 36 à 48 heures pour que l'eau contaminée rejoigne les robinets des consommateurs et de nombreuses alarmes auraient alors sonné. Mais ce piratage, c'est un nouveau signal alarmant pour le Washington Post. Les infrastructures critiques américaines, les réseaux d'eau, d'électricité et de transport sont vulnérables aux cyberattaques. Les experts en cybersécurité mettent en garde depuis longtemps contre ce type d'intrusion, renchérit le New York Times. Avec la numérisation, les ingénieurs peuvent contrôler la température ou la pression des produits chimiques tout en travaillant à distance, mais cette faille peut être exploitée par les pirates informatiques. À l'heure actuelle, on ne sait pas si le hacker a opéré sur le sol américain ou depuis l'étranger.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 à New York. Nous terminons ce petit tour du monde ce matin en Hongrie. Avec vous, Joël Le Pavou, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à Budapest ?
Eh bien, c'est la dernière radio indépendante de Hongrie, Klub Radio, qui n'émettra plus à partir de lundi après le rejet d'un recours engagé devant le tribunal de Budapest, rapporte le site MediaAge. Une décision triste, honteuse, mais sans surprise, affirme son président, András Aratto, cité par le portail Negnegnegy. Car en septembre, relate Huszonyi Pontu, le Conseil des médias, une sorte de CSA hongrois composé de proches du gouvernement de Viktor Orban, avait refusé de prolonger la fréquence budapestoise de cette antenne critique du pouvoir actuel. Motif de retard de livraison de documents administratifs constituant une double infraction à la loi sur les médias, écrit Index. Klub Radio, déjà plusieurs fois menacé de fermeture, conteste le verdict d'hier et poursuit son activité sur Internet, ajoute Nepsava. La station dispose de 2 semaines pour déposer son appel, précise l'hebdomadaire AVG.
Merci Joël Le Pavouze, correspondant Europe 1 en Hongrie. Europe 1.